Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est mercredi le 27 mars, c'est les midi 4 et c'est l'heure de Ludo Radio. Tout le monde, Alexandre Bélanger à la barre de Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire d'une heure de discussion de jeux de société, jeux de rôle et culture geek. Cette semaine, comme d'habitude, j'ai mes trois compères habituels. Nathan Saint-Pierre, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va bien. Je t'ai allumé, tu peux dire bonjour.
Ça va bien, toi? Je m'étais allumé, mais ça va, je me suis réteint.
C'est votre son qui était baissé, je m'excuse.
Ah!
Voilà. Salut Alexandre Racine, comment ça va?
Hey, ça va super, merci.
Et salut Hugo, comment ça va?
Ça va toujours très bien.
Ben oui. Hey, je suis content de voir les boys cette semaine. Cette semaine, on a une émission plus ou moins chargée. On vous présente une nouvelle acquisition du club. On vous présente, comme d'habitude, une mécanique de jeu. On va vous parler d'un nouveau système de jeu de rôle. Et comme d'habitude, je vais faire une petite section nouvelle en commençant. Alors cette semaine, les nouvelles sont mauvaises dans le sens où les studios Larian, qui nous ont donné le jeu de l'année 2023, Baldur's Gate 3, ont annoncé qu'ils non seulement ne feraient pas de DLC pour Baldur's Gate 3, mais qu'ils quittaient l'orbite de Wizard of the Coast et de Dungeons & Dragons. Vous allez m'excuser, mais pour une fois qu'on voulait payer pour un DLC.
Oui, je l'attendais. J'avais hâte le DLC qui monte le niveau maximum de la campagne. Je l'attendais, là.
Ça, je pense pas que ça arrivait. Ils ont expliqué, quand ils ont fait la campagne, niveau 12, parce qu'au-delà du niveau 12, les sorts étaient comme impossibles.
Ils voulaient pas se rendre au spell niveau 6.
Ouais, non, ça a été compliqué.
Déjà, les sorts de niveau 5 étaient très limités par leur nombre. Il y en avait beaucoup qui avaient été retirés par leur complexité.
Comme
ça se comprend.
Fait que c'est ça. Écoutez, moi, tout ce que on peut espérer, c'est qu'ils travaillent sur quelque chose de potentiellement mieux. Hein? On s'entend.
Ils vont
que...
clairement travailler sur quelque chose de nouveau.
Ouais, ben, ils ont comme un studio de 800 devs à faire vivre. Fait que...
Puis ils ont une pas pire bonne boucle de réputation puis d'argent en ce moment.
En effet. Comment ça fonctionne l'argent dans ça aussi, c'est que les actionnaires veulent leur part. Fait qu'il va y avoir probablement un. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une annonce d'ici un an et demi, deux ans sur. Parce qu'on s'entend, il y a plusieurs sortes de devs, puis on est capable souvent dans le jeu vidéo de travailler sur deux projets simultanés. Quand l'infrastructure est faite, puis tout, puis on est juste à faire l'or, les bugs, ces petites affaires-là, il y a une partie de l'équipe qui peut commencer à travailler sur un autre projet. Là. Tout ce qui est, dans le fond, design. Quand c'est fini, puis que c'est en train d'être mis en place, mais on peut commencer à penser à d'autres projets.
Il y a même plusieurs studios qui travaillent sur deux projets simultanément parce qu'ils sont suffisamment gros. Là, je pense à Ubisoft, qui ont des bureaux un peu partout dans le monde.
Ouais, Ubisoft, c'est
pas tous les bureaux qui travaillent sur la même chose en même temps.
C'est des boîtes de développement, mais c'est gros Ubisoft. L'Ariane s'est rendu pas pire gros, mais Ubisoft,
c'est
d'autres choses. Ouais. On parle d'une camionnette ou d'un autobus à 65 personnes. Là. C'est pas la même classe de permis, on va le dire comme ça. Une autre nouvelle, c'est Helldivers 2, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est en train de s'aligner pour être le jeu de l'année. Des petites controverses au niveau là, les expressions des gens LGBT et tout. Mais ça fait du sens avec le contexte du jeu où on dit, on ne veut pas vous donner une cape arc-en-ciel parce que on va être obligé de donner une cape bleu, blanc, rouge aux Américains. Puis ça va contre l'esprit du jeu. Moi, je joue quand même pas pire depuis 3 semaines. Là, je veux beaucoup de plaisir. La musique est excellente. La campagne est complètement déjantée, silly. C'est une belle parodie en même temps qui se prend juste un petit peu au sérieux, mais pas trop. Ouais. Un beau mix.
De ce que j'ai vu, ça me faisait penser beaucoup à un film des années début des années 2000 là, dont j'ai oublié le nom.
Starship Troopers.
Starship Troopers, oui. Ouais, mais en termes d'esthétique puis de silliness un peu là, mais.
Ouais, je te dirais qu'il y a peut-être une différence, c'est que Paul Verhoeven, le réalisateur de Starship Troopers, était volontairement rendait l'extrême droite grosse et le jingoïsme gros et con. Tandis que Helldivers 2 le tourne au ridicule.
OK.
Mais bon.
C'était l'impression que j'avais quand j'ai vu des parties de ce jeu-là.
On pourrait en parler longtemps. Si vous aimez les shooters et que vous n'avez pas encore installé Helldivers 2 pour 50$, je vais vous dire qu'est-ce que vous faites? Sérieusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
Très bien.
Et c'est déjà le moment de l'émission où on va commencer à parler de mécanique avec Hugo. Hugo, cette semaine, tu attaques une mécanique que t'aimes pas. On va-tu...
J'irais pas jusqu'à dire que je l'aime pas, mais c'est une mécanique beaucoup, beaucoup plus légère et beaucoup moins complexe que les autres versions. En fait, certaines personnes pourraient appeler ça la version light des jeux standards. La mécanique que je présente cette semaine, c'est la mécanique Roll and Write, ou communément appelé en français, les jeux de dés. Toutes les versions adaptées de jeux de société en jeux de dés, ou encore plus de manière plus globale, si on peut donner une petite catégorisation, c'est un jeu qui implique de rouler des dés et d'utiliser les résultats afin de faire des points, ce qui est extrêmement générique. cependant, en général, les jeux qui vont être classifiés comme Roll and Write, en plus d'utiliser simplement des... vont non seulement utiliser des dés, mais vont être la partie centrale du jeu. Parce qu'on se cachera pas qu'énormément de jeux de société utilisent des dés. Ça les classifie plus nécessairement comme Roll and Write.
Effectivement, on n'appellerait pas Monopoly un Roll and Die.
Non, c'est ça. C'est vraiment... il faut que ce soit la partie centrale et que ce soit... rouler des dés, la combinaison de dés que tu roules te donne des points.
Ça tire son origine du Yahtzee.
Exactement. Donc, ça, si vous aviez fait un peu de lien, le jeu de dés original, que tu roules des dés puis tu fais des points en fonction de ce que tu scores, c'est Yahtzee. Depuis, ils ont sorti beaucoup de variantes. Ça a été tellement populaire que les copies et les petites variantes sont sorties. Mais il y a aussi eu beaucoup de versions intéressantes qui ont pris le concept original de Yahtzee et qui l'ont amené plus de profondeur, donné plus d'interaction entre les joueurs. Parce que au Yahtzee, la seule façon d'interagir avec les autres, c'est de faire plus de points qu'eux autres en roulant tes dés.
Ou tricher en poussant les dés.
Ça s'arrêtait pas mal là, les interactions. Depuis, ils ont sorti des jeux tels que So Clever, That's Pretty Clever, Clever Cube. La série Clever a été... j'ai réussi à trouver une dizaine de jeux qui partent là-dessus. Mais il y a aussi des jeux tels que Fleet de Dice Game, Long Shot de Dice Game, Catan de Dice Game, Castle of Burgundy de Dice Game. Et vous pouvez les nommer. En gros, si vous voyez un jeu dans un magasin qui est écrit de Dice Game puis qui est assez compact, vous vous faites probablement face à un Roll and Write.
Je pense qu'on pourrait aussi inclure la catégorie des King of Tokyo, New York, etc., comme des jeux de ce genre.
Absolument.
Il y a une partie roll, mais je te dirais que c'est plus un King of the Mountain comme mécanique, roi de la montagne.
Je veux quand même dire que la partie roulée des dés est centrale.
Oui, est centrale. Mais,
tout ce que tu fais va dépendre des dés. La combinaison est moins
importante. C'est ça. Je pense que la différence, c'est qu'un Roll and Write, t'as des rerolls aussi quand tu lances. Là.
En général, tu vas avoir des rerolls. Le principe est d'obtenir une combinaison gagnante. Il va généralement avoir plusieurs combinaisons qui vous permettent de faire des points et vous allez avoir l'option de garder votre combinaison que vous avez obtenue en roulant ou rerouler vos dés pour tenter d'obtenir
tous
mieux.
Tous ou en partie.
Tous ou en partie, dans l'espoir d'obtenir mieux. Mais bien évidemment, c'est un risque puisqu'on ne sait pas ce qu'on obtient.
Puis un roll and ride, dans le fond, c'est qu'on on gère le risque. On a souvent des...
Certaines versions, par exemple le Yahtzee, comme je disais, l'interaction, c'est juste de voir si la personne précédente a fait plus de points. Ben, tu dois prendre le risque de toi-même en faire encore plus. Donc, c'est comme ça que tu vas te comparer aux autres joueurs. Mais, par exemple, That's Pretty Clever ou So Clever vont interagir avec les autres au sens où, lorsque le joueur principal est en train de rouler tes dés, les autres joueurs vont aussi rouler pour tenter de nuire ou d'obtenir des bonus pour eux-mêmes. Ma question pour vous, cette semaine, c'est... J'ai parlé beaucoup de versions de Dice Game, des jeux plus complexes, tels que Catan ou Castles of Burgundy. Vous en pensez quoi de ces versions-là? On se cachera pas, simple de voyage, beaucoup moins complexe que les jeux initiales.
Écoute, je vais faire un deal avec toi. Mm-hmm. J'ai une réponse complexe et nuancée, mais j'ai pas le temps de la donner avant d'aller à la pause.
Oh.
On va aller à la pause, on répond à la question après. De retour à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant la pause, Hugo nous a présenté la mécanique de jeu Roll and Write.
Mm-hmm. Et on a vu que c'est généralement la version compacte des jeux de dés. Tu roules, tu fais des points. Et on se posait un peu la question de les jeux adaptés en Roll and Write, des jeux plus complexes que Castle of Burgundy, Catan et bien d'autres. Vous en pensez quoi?
Y en a-t-il quelqu'un qui veut commencer?
Ben, je peux y aller, en fait. J'ai pas essayé de jeu adapté de jeu plus complexe en Roll and Write. Donc, je peux pas dire est-ce que je les préfère, mais d'après moi, je préférais la version, tant qu'avoir une version complexe et dans une belle boîte, je préférais jouer à la belle boîte. Mais par contre, c'est comme la série des Dice Throne, qui est un Roll and Write pimpé avec du combat un joueur contre joueur. Là.
Mm-hmm.
Ou, tu sais, je les aime bien parce que justement, ça fit bien dans un sac à dos, ça se transporte bien, oui, les parties sont rapides. Là.
Tu les aimes bien et peut-être un understatement.
Toi, Al?
Écoute, moi, j'ai deux visions là-dessus. La première, c'est en tant que gamer hardcore, je fais arc. Mais, après ça, j'ai la personne qui est directeur des opérations du CGRSS qui a souvent affaire de l'initiation aux gens de ces jeux-là. Peut-être que partir quelqu'un avec Terraforming Mars, c'est raide un peu. Mm-hmm. Mais si je peux y partir avec Terraforming Mars de Dice Game, où là, il va comprendre les mécaniques de ressources, les mécaniques de plantes, ces affaires-là, puis que j'y passe peut-être un tiers des règles du jeu, mais peut-être que la prochaine fois, je vais pouvoir dire « Hey, t'as-tu aimé ça? Ouais, OK. Tu veux-tu jouer à la version que genre le monde pense que c'est le 6e meilleur board game ever? » Tu sais déjà la moitié des règles. Ah, peut-être. Fait que, un côté, mon hardcore nerd dit « Ben, c'est un cash grab. » C'est comme « On va utiliser l'IP pour traire ça puis faire de l'argent. » Ils l'ont fait avec Terraforming Mars, ils ont fait le Dice Game et le Card Game. Mm-hmm. Ceci étant dit, peut-être que ça a son utilité dans une ludo pour des gens qui sont un petit peu moins crinqués.
Oui. Puis pour ajouter là-dessus, des fois, le thème d'un jeu est super le fun, mais t'aimes pas particulièrement une des mécaniques ou c'est pas quelque chose avec lequel t'es confortable, puis avoir l'option de jouer quand même au thème puis avec les ressources du jeu, mais avec des mécaniques différentes, ça peut être un changement intéressant. Mais je vais être généralement d'accord avec la partie plus hardcore de Hal que ces jeux existent en version complexe, je peux-tu y jouer en version complexe?
Personnellement, je dirais que je suis un peu peut-être biaisé parce que j'ai énormément de nostalgie avec les jeux Roll and Write. Chez nous, Zombie Dice ou encore Catan de Dice Game étaient des jeux vraiment utilisés en voyage. Étant donné que ça m'est arrivé de faire plusieurs longs voyages, j'ai des bons souvenirs dans l'arrière du char à jouer. On peut pas vraiment jouer à des longs jeux de société qui prennent bien de la place sur un siège d'auto. Donc, jouer à des Roll and Write était vraiment le passe-temps pour les longs voyages. Et en ce sens aussi, rendu à destination, si vous êtes arrivé au chalet ou vous ne savez pas quoi faire, pas nécessairement la place pour les énormes jeux ou encore pas nécessairement les champs, dépendamment si vous êtes en famille. Roll and Write, généralement extrêmement simple et facile à jouer avec du monde que vous aimez.
Donc, il y a de l'association avec des bons souvenirs qui vient avec ça.
Oui, absolument.
C'est bon, c'est pour les jeunes.
Exactement.
Écoute, une bonne initiation aussi sur le risque et les statistiques, parce que c'est si y a tout de quoi de plus random qu'un D6, mon Dieu. Tu l'as vu la semaine passée. Hein?
Oui.
Il l'a vécu hier, je te dirais aussi.
Fait que Roll and Write, jeu de dés compact et simple. Si vous cherchez des jeux de voyage ou des petits jeux plus simples, je vous recommande ça.
Tu viens de parler d'hier, Nathan.
Ouais,
je pense que ce sera un bon moment de passer à ça, maintenant que je pense que tu as fini ta chronique.
Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine?
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé hier,
Nathan? Hier, en fait, on était supposé avoir une game de Donjon Dragon, mais j'avais pas suffisamment de joueurs parce que les joueurs n'étaient pas disponibles. Donc, on a fait un petit one-shot sur Blades in the Dark, qui est un jeu de pool de dice avec des D6. Et Hugo a réussi à lancer 7 D6 et ne pas avoir un succès.
Il faut mentionner...
qu'il y a 50% de chances de succès sur chaque
le succès est 4, okay. 5 ou 6.
Okay. Ah, c'est même pas juste 5-6.
On n'en parlera pas plus longtemps que ça. Ma chance est légendaire.
Sinon, à quoi d'autre est-ce que tu
as J'ai joué à Above and Below la semaine passée avec Ali Hugo.
Oui. Moi aussi, j'ai joué à Above and Below... avec à peu près le niveau de chance de Hugo. Tu as peut-être laissé ta chance dans la partie de Above and Below.
C'est ça, j'allais tout utiliser à ce moment-là.
Above and Below, c'est un petit jeu d'exploration souterraine où les chances de succès sont pas mal limitées.
Oui.
Pas mal plus que dans Blades in the Dark. J'ai joué à Donjon Dragon à la console qui console aussi en fin de semaine. Mm-hmm. Avec maître de jeu qui fait souvent des parties au Montagu. Mm-hmm. J'ai joué à Memory 44 aussi, qui est un jeu de combat 1 contre 1, thème Deuxième Guerre mondiale. J'ai joué les méchants nazis, puis j'ai gagné.
Oh non,
tu recrées Wolfenstein.
Pour moi, j'ai joué à Distilled, un jeu comme ça, vous connaissez probablement pas pour l'instant. Puis j'ai aussi eu la chance de jouer à Betrayal Legacy, qu'on a renommé Friendship Legacy, parce que ça fait 3 games que personne meurt.
C'est quand même efficace, il faut dire. Là. Dans un jeu qui s'appelle Betrayal at the House on the Hill, que personne meurt, c'est...
Personne, y compris le traître, ce qui s'en vient étrange.
Puis moi, je sais avec qui il joue. Fait que je tombe quasiment en bas de ma chaise.
Oui, mettons qu'il y a 2 personnes à notre table qui aiment beaucoup trahir puis tuer tout le monde d'habitude. Donc c'est vrai que c'est particulièrement surprenant. Puis sinon, j'ai eu la chance de jouer à ma game de D&D, une game de Tales of Xadia, qui est un système relativement simple, dont je crois avoir déjà parlé rapidement. Puis une autre game qui a malheureusement pas eu lieu. Puis finalement, Hugo, à part Above and Below, ça s'est plutôt bien passé?
Oui, ben moi, les jeux ont déjà été présentés, ceux que j'ai joué. J'ai joué à Above and Below et à notre petit one-shot de Blizzard Dark, mais j'ai aussi eu l'occasion de jouer un peu à Lost Ruins of Arnak.
Ah! Tu te l'as acheté, hein, c'est vrai.
Ouais.
C'est un bon jeu quand même.
Un excellent jeu.
Ben, je pense que on va faire de l'alcool. Je dis on fait de l'alcool. Alexandre Racine a parlé d'un jeu qui s'appelle A Distilled.
Il y a des liens à faire. Je pensais vraiment que tu allais me passer à Puck tantôt sur ta pub de... Helldiver 2 avec tes shooters, là. Je voyais un lien à faire.
Ouais, c'est un shooter, c'est pas la même sorte de shooter. Il y en a un qui fait mal dans le cerveau, puis l'autre qui fait mal aux os.
Donc, cette semaine, on va faire de l'alcool avec Distilled. Distilled est un jeu relativement récent.
2023.
Et oui, qui s'avère avoir une bonne cote quand même sur BGG avec un 7.9 et une complexité à peine en bas de 3. Donc, une complexité... quand même correct, mais qui fera pas peur à des vétérans ou des habitués.
Un 2.97,
c'est ça? Pour y avoir joué, je suis d'accord. C'est un jeu standard, pas le plus simple, mais clairement pas un des plus compliqués que j'ai joué.
Qu'on parle à peu près Terraforming Mars sans les expansions comme difficulté?
À peu près,
dans les mêmes eaux.
Par contre, c'est pas les mêmes mécaniques, bien que ce soit aussi un constructeur de moteur, il est très différent. Ce que vous représentez, dans le fond, c'est une personne qui se lance dans le domaine de la distillerie. Et votre objectif est de faire la plus grande renom possible pour votre nouvelle distillerie en produisant des alcools de qualité qui vont être reconnus, donc vous donner des points, et en produisant éventuellement peut-être votre recette personnelle qui va vous valoir encore plus de points. Comment est-ce qu'on fait ça, produire de l'alcool? Bien, pour produire de l'alcool, il faut des ingrédients, donc un sucre, une céréale, un fruit ou une plante qui va se décomposer pour faire de l'alcool. Ça va vous prendre de l'eau, puis une sorte de levure. Une fois que vous avez de l'eau, un sucre, une levure, vous êtes parti, puis vous pouvez partir votre recette. Dans le fond, tout le monde va faire des tours d'acquisition jusqu'à ce que plus personne puisse acquérir.
Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un marché auquel on peut acquérir des choses.
Tout à fait. Il y a un marché ouvert, très, très simple, qui ne bouge pas, des ressources de base. Puis tout le monde a le droit de prendre jusqu'à 2 ressources dans le marché de base.
Okay.
La limitation à 2 est importante parce que la moitié des affaires dans le marché de base sont gratuites. L'autre moitié sont coûteuses, mais moins que les ressources de luxe. Donc, évidemment, les ressources de base sont limitées pour éviter que quelqu'un prenne genre 8 eaux parce que ça y tente.
Donc, on a 3 à 2 choses dans le marché de base, mais oui. Tu m'as mentionné qu'on a besoin de 3 choses pour faire une date.
Tout à fait.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter le reste?
La plupart des personnages vont commencer avec certaines ressources qui viennent à 2, certains avantages, certains gains d'argent. Puis, on a aussi accès au marché de luxe, le marché spécial, qui, lui, est toujours représenté par 3 lignes de 4 objets. Okay. Il y a 4 produits ressources, donc des céréales, de l'eau, des levures. Il y a juste 4 à faire. Donc, on ne sait pas si on va avoir ce qu'on veut. Mettons qu'on veut produire du rhum et que ça nous prendrait de la canne à sucre ou une autre plante. Ben, ça se peut qu'il y ait juste de l'eau et des céréales. Donc, ça ne produira pas de rhum.
Mais tu pourras produire d'autres alcools.
Tout à fait.
De la vodka.
Par exemple, oui. La vodka est d'ailleurs considérée comme l'alcool de base dans ce jeu-là. Dès que tu as un sucre, peu importe ce que c'est, tu fais de la vodka. Si tu n'as pas de sucre whatsoever, mais que tu as quand même de l'alcool, tu produis du moonshine.
C'est nice.
Donc, ça, c'est les comme mauvais scénarios. Et dans les deux autres lignes du marché, on a les upgrades de ta distillerie. Donc, des spécialistes qui peuvent venir travailler pour toi et te donner des bonus. Ou des upgrades de machines qui peuvent te permettre de gagner plus de cartes, recevoir plus de rabais, etc. Puis la troisième ligne, c'est les bouteilles pour embouteiller tes alcools. Ou les tonneaux pour faire vieillir certains alcools. Donc, ça, c'est le marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On achète des produits. Puis quand on a réussi à avoir fini notre tour, qu'on n'a plus d'argent ou qu'on décide d'arrêter d'acheter, si on a au minimum une levure, un eau puis un sucre, on peut faire un alcool. On est rendu à la phase de distillation. Donc, on prend les 3 piles, eau, sucre et levure. Pour chaque sucre qu'on a, on rajoute une carte alcool. Donc, si on a mis 2 sucres, on a 2 sucres et 2 alcools. Puis on prend l'eau, la levure, les sucres et les alcools. On mélange ça. Puis on enlève la première carte du dessus et du dessous, ce qui est la partie un peu hasard, si on veut, du jeu. Comme quoi, quand on dit, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas exactement comme on veut, puis on perd un peu des ingrédients, tout ne se rend pas dans la bouteille. La bonne nouvelle pour vous, par contre, c'est que ces ingrédients-là qui sont « perdus », entre guillemets, vous les reprenez pour le prochain tour. Donc, ils ne sont pas perdus, perdus. Ensuite, vous regardez les cartes qui vous restent dans votre distillerie, celles qui n'ont pas été enlevées. Puis, s'il vous reste les cartes que ça prenait pour faire l'alcool que vous voulez faire, vous pouvez le faire. S'il vous reste plus de sucre, ça va être du moonshine. Puis, s'il vous reste un sucre seulement, puis que ce n'est pas celui que vous vouliez, ça va être de la vodka.
Donc, il faut quand même mentionner que l'eau, la levure sont requis pour faire l'alcool.
Mais ne sont pas requis pour l'embouteillage.
Ils ne sont pas requis pour l'embouteillage ou pour les recettes. Ce qui est pour faire les recettes, ce qui est vraiment spécifique, c'est les sucres que vous avez utilisés, les sucres qui vous restent.
Tout à fait. Donc, la meilleure chose qui peut arriver, ou presque, quand on brasse, c'est d'enlever la levure puis un sucre. Alcool ou de l'eau. Puisque l'eau et l'alcool vont quand même donner un petit bonus à votre alcool, tandis que la levure donne rien.
C'est bonus d'argent là, à la vente.
Oui, c'est bien ça.
J'imagine que les cartes qui restent, il y a des points dessus.
Effectivement,
si on a
certaines cartes donnent des points, certaines cartes donnent de l'argent quand l'alcool va être vendu. Et pour finir l'alcool, il faut le mettre dans un tonneau. La plupart des alcools de base, comme le moonshine et la vodka, peuvent être mis dans un tonneau de métal qui vient de base. Mais certaines alcools plus fancy doivent être mis dans des tonneaux de bois, comme le rhum, par exemple, et certaines alcools européennes, surtout, ou asiatiques, doivent être mis dans des barils qui sont plus des pots en argile, parce que c'est la manière traditionnelle de vieillir. Puis si vous n'avez pas ce pot ou ce baril-là qui ne viennent pas de base, donc il faut l'avoir acheté au marché, vous ne pouvez pas faire vieillir votre alcool, donc vous ne pouvez pas le faire, donc ça devient de la vodka de base, si vous n'avez pas le baril. Donc c'est important de prévoir les barils en conséquence.
La vodka, ça se vend?
Oui, la vodka et le moonshine ont l'avantage de faire très peu de points, mais aussi un peu d'argent. Tandis que toutes les autres alcools de base font juste des points, de plus en plus de points. Évidemment, selon les cartes que vous avez utilisées, ça se peut que vous ayez un peu d'argent, mais ça va faire moins d'argent de base.
Fait que ça va prendre un petit peu d'argent pour aller au market, donc on va être pris à faire du moonshine.
D'où la partie construction de moteur. Il faut que tu aies suffisamment d'argent pour acheter tes ressources ou suffisamment d'upgrade de distillerie pour que tes ressources arrivent par elles-mêmes. Donc, une fois que tu as ton moteur qui tourne, tu réussis à créer des alcools à chaque tour. Puis, on peut arriver aux autres catégories après la pause, je crois.
Oui, on va aller faire notre petite pause. Puis après ça, ben, on va parler des autres catégories, de ce qu'on pense du jeu, etc., etc. Donc, on vous revient dans quelques secondes. De retour en onde à Ludo Radio. Avant la pause, Alexandre Racine nous présentait le jeu Distilled. On est rendu où dans notre présentation?
Ben maintenant, on a couvert les alcools de base, puis j'ai parlé rapidement des alcools qui pouvaient être mis dans des tonneaux ou des vases spéciales, ce qui nous amène à la prochaine mécanique. Une mécanique où on peut faire vieillir notre alcool. Certains alcools doivent être vieillis au moins une fois, puis d'autres peuvent être vieillis. Mais si ces alcools-là sont vieillis, vous ne les vendez pas tout de suite. Donc, vous ne faites pas d'argent et de points maintenant, ce qui peut être un problème pour acheter pour le prochain tour. Mais ces alcools-là vont gagner à chaque tour où ils sont dans la section de vieillissement une carte saveur additionnelle. Puis ces cartes-là, vous ne savez pas ce que c'est, je sais ce que vous vendez votre alcool. Mmh. Dans le fond, ça représente les nuances que l'alcool va gagner en vieillissant. Les connaisseurs d'alcool savent de quoi je parle. Moi, je ne sais pas de quoi je parle.
Ben, en tant que, je ne veux pas dire grand connaisseur, mais quand même, que personne qui apprécie le bon vin et l'alcool, je vois où est-ce que ça s'en va, là, le goût de baril, petit goût de cerise, etc. Voilà, j'imagine que c'est des trucs comme ça. Dans le...
Tout à fait. Ouais. C'est des trucs qu'on veut. Malheureusement, dans le vieillissement de l'alcool, il y a certains qui ne se rendront pas sur les tablettes normalement et que dans ce jeu-là, on n'a pas le choix, qui vont être des saveurs moins recherchées, comme par exemple le poisson ou le sac de sport ou la moufette.
Oui, ça, le moufette, le rubber.
L'algue.
Donc, des fois, les saveurs qu'on pogne sont pas exactement avantageuses, mais il n'y a rien qui fait perdre des points. Au pire, vous n'en gagnez pas pour l'avoir vieilli. Okay. Donc,
mais en fait, on ne gagne pas de points supplémentaires en lien avec la saveur.
Parce que chaque carte de vieillissement donne un bonus de points qui est un peu exponentiel. Donc, une carte de vieillissement, 1 point, 2 cartes, 3 points, 3 cartes, 6 points, etc. jusqu'à 15 pour 5 vieillissements.
Okay.
Donc, c'est beaucoup de points, surtout sachant qu'une game normale va se finir autour de 100-120 points.
Mais de manière régulière, pour obtenir 5 cartes saveurs, il faut que tu attendes 5 tours avant de
À moins d'avoir des installations ou des barils spéciaux qui donnent de la saveur additionnelle rapidement. Mm-hmm. Effectivement. Puis comme le jeu dure juste 7 tours, ça veut dire qu'au mieux, okay, tu peux avoir deux alcools avec 5 saveurs. Mm-hmm. Et ça veut dire que tu n'as rien fait pour les deux premiers tours, ouais. Ce qui est rough. Donc, ça, c'est la mécanique de vieillissement. Ce qui nous emmène à vente d'alcool. Donc, que vous ne l'ayez pas fait vieillir ou que vous l'ayez fait vieillir, il y a l'étape de vente qui existe. Puis quand on est rendu à l'étape de vente, il faut une bouteille. Le jeu vient de base avec une bouteille de verre plate. Puis si tu mets ton alcool dans une bouteille de verre plate, tu fais une pièce, puis la bouteille de verre plate te revient. Par contre, tu peux acheter des bouteilles fancy qui vont donner plus de valeur à un alcool qui vient du pays recommandé. Donc, il y a des bouteilles, par exemple, la bouteille de pirate donne plus de points si tu as un alcool américain, par exemple un rhum. C'est assez logique, une bouteille de pirate, un rhum, on aime ça. Donc, ces bouteilles-là vont donner des points supplémentaires, de l'argent supplémentaire.
J'ai des petits flashbacks de Jack Daniels épicé, là.
Sinon, il y a l'autre version des bouteilles qui est simplement les bouteilles de luxe qui coûtent toute la même chose, donnent toute la même quantité de points. Mais qui donne une quantité substantielle de points supplémentaires.
Tout à fait. Puis ces bouteilles-là sont utilisées à la fin pour avoir des bonus supplémentaires pour avoir une belle collection de bouteilles à votre nom. Donc, pourquoi pas. Et finalement, quand on vend le produit, on récupère le carton de... je me souviens plus du nom qu'il donne, mais la sorte d'alcool. Ces cartons-là sont limités selon le nombre de joueurs. Donc, on peut pas faire le même alcool 20 fois. Éventuellement,
donc, si tout le monde fabrique la vodka, au final, les gens qui en achètent sont moins intéressés. Il y a moins de prestige à faire.
Puis ces cartons-là, tant qu'il y en a pour l'alcool que vous avez fait, vous pouvez les mettre sur votre board personnel pour réclamer certains bonus. Tous les bonus peuvent être 2 points de victoire ou autre chose, qui varie de un peu d'argent, ton ingrédient personnel, aller chercher une upgrade gratuite, etc. Donc, c'est des bonus qui peuvent être substantiels que tu peux aller chercher à la fin de chaque round si tu vends. Si tu vends pas, tu ne l'as pas tout de suite.
Ça joue de 1 à 5.
Oui,
BGG nous dit 3 ou 4. À peu près 30 minutes pour,
par joueur. C'est dit par la boîte aussi. Donc, félicitations à la boîte.
Puis, d'expérience, c'est juste?
C'est fair. Okay. C'est sûr que pour une première partie, mettez plus comme 45 minutes par personne. Mais,
première partie à 5, mettez quasiment une heure par personne. Parce que ça a été vraiment long, notre première partie.
Ça n'a pas pris 5 heures non plus.
Non, mais ça a pris 4 heures. 4 heures plus les explications.
Ouais. Mais oui, c'est faut. Je pense que 3 ou 4.
Je pense que pour une rejouabilité, 30 minutes, ce serait logique.
Oui. Okay.
C'est une belle boîte. L'art a l'air super beau. Il y a un système de rangement. Ça, moi, ça vient tiquer de mes.
Oui, je m'avais demandé d'en parler, justement.
Puis, vous en pensez quoi, vous trois qui avez joué? Moi, je n'ai pas joué, mais vous trois.
Non, malheureusement, à cause d'un accident mangueux, tu n'as pas pu jouer. Donc.
Personnellement. Ça a été classé comme un jeu de Engine Builder.
Mais c'est vrai qu'il y a une partie. Je suis d'accord avec ce que tu disais pendant la pause. Mais c'est pas la partie centrale.
On en jasait, puis à mon avis, l'aspect central de Distills, c'est le open market. C'est la grande phase du jeu. C'est le moment où vous choisissez quoi acheter.
Qu'est-ce que vous allez faire?
C'est vraiment là que les décisions se prennent.
Il y a un gros changement de stratégie aussi en fonction du market disponible. Donc, qu'est-ce qui est disponible dans le marché? ça va changer ta stratégie ou pas. Oui. Là.
Puis
ça.
Selon les tags qui restent, il y a une interaction entre joueurs que, OK, cette personne-là est partie pour faire du rhum, je ferai pas du rhum parce que j'aurais plus de tags, ça me sert à rien. Mm-hmm. Donc, il y a un peu d'interaction entre joueurs ici, mais sinon, c'est très, très euro comme jeu, on va se dire.
Oui,
absolument,
absolument. Sinon, ben, pour la partie upgrade de Engine Builder, ben, ce que je trouve dommage, parce que la mécanique restait intéressante d'améliorer sa bâtisse, mais tu ne peux avoir que 3 améliorations qui sont généralement assez statiques.
Puis si
tu
en as plus que 3, tu dois en flusher une.
Exactement. Malgré tout, overall, j'ai vraiment apprécié le jeu. Pouvoir débloquer une nouvelle recette, ce qui a été mentionné, qu'on n'a pas mentionné,
non,
mais
en effet,
il y a
non
des
marché,
manières...
Il y a aussi des cubes qu'on peut débloquer pour la recette, selon si la recette est de base, avancée ou prestige. Mm-hmm. Donc, ces cubes-là de recettes vont coûter de plus en plus cher, puis vous permettre de créer des icônes de meilleure qualité qui valent plus de points.
Et qu'il y a finalement deux manières finales de faire des points en fin de partie. S'il y aura des objectifs connus à tous en début de partie, le premier joueur, par exemple, qui parvient à faire 4 alcools européens, obtient un bonus de points ou qui obtient, etc. Et il y aura aussi...
à dire que s'il y a égalité, donc s'il y a deux joueurs qui arrivent au même tour, ils ont tous les deux le bonus,
oui.
Mais s'il y a une égalité à deux tours différents, tout bad pour le deuxième.
Voilà. Donc, c'est le premier qui y parvient et qui a en fin de partie des objectifs secrets.
Des objectifs personnels, en effet.
Donc, vous pouvez faire des points supplémentaires avec ça.
Oui, ça fait pas mal le tour.
Belle complexité, belle esthétique, belle représentation du métier distilleur, en fait, parce que en y jouant, j'ai fait comme moi, mais c'est comme ça que ça fonctionne à peu près au niveau du monde. Donc, c'est bien représentatif du métier de distilleur.
Disponible au club, encore en moratoire, donc il sort pas avant le prochain achat.
Ce qui veut dire que, bonne nouvelle pour vous, il va toujours être là si vous voulez venir jouer. Donc, c'est ça. On n'est encore pas exactement sûr entre nous autres dans quelle catégorie il va être, mais il devrait pas trop bouger de la tablette. Là.
Si vous voulez donner votre opinion, ben venez jouer avec
nous. Ben, écoutez, il y a du open manière. Market, il y a du engine building, puis il y a du push here là. Moi, c'est ça que j'ai retenu de votre présentation.
Oui.
Pas mal ça, oui.
Bon. L'émission avance. Il va falloir faire parler de Alien, puis je pense que Nathan, tu n'auras pas le temps de couvrir tout ce que tu veux. Mais, fait que je skip l'intro, go.
Bon, ben parfait. Donc, Alien. Une franchise qui a beaucoup d'histoires, beaucoup. Je pense qu'il y a 7 films. Le 7e vient cette année dans l'univers de Alien, c'est-à-dire les 4 premiers plus les 3 Prometheus.
Tu parles-tu aussi des crossovers avec les Prédateurs?
Non, non. Il y a 4 films Alien, puis il y a 3 films dans la série Prometheus,
oui, effectivement.
Qui est dans l'univers de Alien, donc on est à 7.
Oui, effectivement.
Juste là, il y a les crossovers avec Prédateurs, donc qu'ils ont mis dans le même univers, et il y a la panoplie de jeux vidéo. Qui vient ajouter à cet univers-là.
Quand même une grosse franchise, mais elle est un petit peu, excusez mon français, un peu focal.
Oui, oui, oui. C'est
pitch un peu partout en fonction du réalisateur, du moment, du...
Je dirais qu'ils sont plus standards au niveau du jeu vidéo. Oui, les jeux vidéo suivent pas mal comme une même lignée, donc plus stable au niveau du jeu vidéo.
Et universellement, à part le premier film, ça finit plutôt mal.
Pour ceux qui n'ont jamais vu, là, en une phrase, c'est quoi le principe?
Si t'es vivant, enfin, t'es vraiment, vraiment, vraiment chanceux.
C'est un film d'horreur.
Ou t'es le protagoniste.
Ouais. Ou t'es peut-être contaminé.
Oui, peut-être contaminé. Mais même le premier, il finit généralement très, très mal. Il n'y a pas grand monde qui sort du vaisseau à la fin du premier. Donc, non, ça sort sur une colonie.
En gros, l'histoire d'Alien, c'est un vaisseau d'exploration qui s'appelle le Nostromo qui découvre une planète où il y a des espèces d'œufs. Dans ces œufs-là, il y a des créatures.
C'est une lune, techniquement. Une lune. C'est la LV-426.
Ouais. Ces créatures-là, on les appelle les xénomorphes.
Oui.
Et ils ont évolué, somehow, l'habileté de se reproduire en infectant des humains.
Oui, en infectant des organismes vivants.
C'est large, là. Je pense qu'il y a un chien à un moment donné, entre autres. Là.
Oui, mais en fait, c'est parce qu'ils vont mélanger leur ADN avec l'hôte et... quand il va sortir, ça ne sera pas exactement le même xénomorphe que le xénomorphe de départ. Dans le livre de Alien, le RPG, il y a un chapitre dédié à l'histoire de l'univers et du monde et du... Il y a beaucoup, beaucoup d'informations disponibles pour justement créer vos parties. Et il y a un chapitre sur les xénomorphes, parce que bien, ce sont les ennemis principaux du jeu, donc ils se sont permis un chapitre avec...
Ah, c'est les ennemis, je ne peux pas jouer aux xénomorphes.
Non, malheureusement, il n'y a pas de façon de jouer un xénomorphe, mais ça l'enlèverait un peu de suspense, je dirais.
Il faut que tu sois le DM si tu veux jouer un xénomorphe.
Ah, ouais. Bon, ben j'écoute.
Donc, avec comment les xénomorphes évoluent, comment ils se déplacent, comment ça fonctionne, donc je vais commencer avec un des points que je dirais que j'ai moins apprécié au niveau du jeu. C'est beaucoup de travail pour le DM en courant de partie. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut que tu tiennes compte, entre autres le temps, l'oxygène disponible, les ressources disponibles, que tu dois pas trop donner à tes joueurs. Il faut que tu maintiennes une ambiance qui est stressante, qui tourne vers l'horrifique par moment. Il faut que tu fasses comprendre à tes joueurs qu'il y a du monde, qu'il y a des ennemis, qu'il y a du danger, mais faut pas que tu les montres. Parce qu'une fois qu'ils vont avoir vu le danger, ça va enlever un petit peu de l'attention.
Oui, c'est comme dans Jaws. Tant qu'on voit pas le requin, il est terrifiant. Puis quand on le voit, il a l'air un peu quelconque.
Exactement. Mais en fait, c'est même comme dans les films. Parce que dans le premier film, le premier alien apparaît tard. À l'écran.
Dans le fond, il y a un facehugger.
Oui.
Rapidement. Puis après ça, ben, il y a le gars qui se fait défoncer. Hein? Spoiler alert.
Pour le film sorti en 79, ouais. Je crois pas que ouais. Le spoiler est nécessaire.
Septième passager en français, si vous le cherchez. Puis après ça, ben oui, il grossit rapidement, puis là, il se met à éliminer l'équipage un par un.
L'équipage un par un, mais t'sais, on les voit pas souvent, on les voit pas beaucoup. Le danger est plus dans l'environnement et dans les comme ce qui se passe autour. Là. Donc l'histoire est racontée par l'esthétique.
Je pense aussi un aspect budgétaire dans ça, dans le temps.
Oui, définitivement pour Jaws, c'était définitif.
Mais pour Alien aussi, je te dirais.
Je pense
là...
que dans les années 70, c'était des effets pratiques.
Mais en même temps, ça a créé un genre de horreur parce qu'on en parle, qu'on le sait, puis qu'on le ressent, mais qui n'est pas là.
Exactement.
Ça a créé une tendance.
On va continuer cette discussion-là une fois qu'on va avoir payé nos bills pour la dernière fois aujourd'hui.
Parfait.
On revient dans pas long. De retour, on a Ludo Radio pour notre dernier segment de l'émission. Avant de partir avant la pause, Nathan nous a présenté le RPG Alien.
Oui, je vais continuer. Je vais en fait rentrer un petit peu au niveau de la mécanique de gameplay, comment le jeu fonctionne. On est ici sur le système de Year Zero Engine de Free League. Donc, système de D6 en Dice Pool. Il y a deux types de dés que vous allez avoir. Les dés normaux, qui sont les dés qui vont être générés par vos caractéristiques et les skills que vous allez utiliser. Et il y a les dés de stress. Les dés de stress, en fait, c'est tu ajoutes un dé par point de stress sur ta fiche de, personnage.
Ça, c'est bien, right?
Oui, c'est bien. Mais en fait,
le stress que tu vas gagner.
Gagner en pushant tes dés ou en rencontrant quelqu'un qui manque la face. À cause qu'un xénomorphe est passé, t'as pas vu le xénomorphe, mais tu vois juste le résultat du passage du xénomorphe. Mmh. Ça augmente le stress. Comment en fait-on un succès? C'est très très simple, tu dois obtenir un 6 sur un dé.
Peu importe lequel.
Peu importe lequel.
Un 6.
Juste un 6, c'est un succès.
Puis
les 6.
Même les stress, c'est des D6, il n'y a pas de D8, D10.
Non, c'est tout des D6. Chaque D6 supplémentaire, chaque 6 supplémentaire que tu obtiens, te permet d'ajouter des stunts à ton action.
Okay.
Voler l'arme de quelqu'un en combat, réussir à faire un geste exceptionnel, réussir à convaincre mieux. Donc, tu sais, ça rajoute. C'est des critiques, en fait.
Plus discuter de base un succès, puis là, plus de succès, ça donne des perks de plus à ton action.
Exactement. Mais par contre, si vous obtenez un 1 sur un dé de stress, important d'avoir deux couleurs de dés différentes pour être capable de les différencier. Si tu obtiens un 1 sur ton dé de stress, l'action échoue automatiquement. Et la personne entre en état de panique.
Sweet.
Donc, l'état de panique, qu'est-ce que ça fait? Faut rouler sur une table, savoir l'état de panique. Après avoir échoué son action, hein, pas avant.
Ah, il y a plusieurs états de panique?
Oui, mais en fait, si tu pognes entre 1 et 6, donc tu roules la quantité de dés égale à ton stress. Puis si tu pognes entre 1 et 6, il se passe rien, tu gardes le contrôle. Juste que tu as quand même échoué ton action. Et sinon, tout au-dessus de 6, ça rajoute des complications de plus en plus compliquées. Et donc, avoir du stress, c'est bien, mais c'est dangereux.
Par exemple, sortir une grenade dans son équipement, la dégoupiller, puis oups, j'ai échappé la grenade, elle est tombée dans le milieu des Marines.
Exactement. Ou encore, t'es en train de tirer avec ton arme et tu vides ton magazine. T'as plus de balles.
Est-ce que faut être un peu sadique pour être maître de jeu à ce jeu-là?
Oui et non.
Ça aide?
Ça aide. Parce qu'en fait, c'est l'idée dans le livre, c'est écrit à plusieurs reprises. ne donne pas beaucoup de ressources à tes joueurs. Il faut que les ressources soient limitées.
C'est surtout un survival dans ce cas-là.
Exactement. Il faut que les ressources soient limitées, il faut que tu fasses attention. Et c'est aussi recommandé de ne pas faire rouler trop souvent à tes joueurs. Fais uniquement rouler sur des emplacements qui vont, sur des moments qui vont faire avancer l'histoire, qui sont charnières. Mm-hmm. À cause de la mécanique de push qui te permet de rerouler tes dés puis qui te fait gagner du stress.
Parce que c'est un style plus cinématique.
Plus cinématique. Parlant de cinématique.
Je débarre la porte. OK, tu débarres la porte.
Ouais, c'est ça. À moins que la porte soit barrée puis qu'il y a un alien qui vous court après, ça se peut que je te demande de rouler pour débarrer la porte parce que ben, t'es en situation dangereuse, donc là, je vais te faire rouler. Il existe deux types de scénarios auxquels on va pouvoir jouer dans le RPG d'Alien. Il y a le cinematic play, qui essaie de recréer, de simuler les films. Le danger ressenti, l'action, c'est genre, vous êtes plus stressé. Généralement, il faut pas que les joueurs s'attendent à survivre la session. Faut pas que tu rentres dans cette session-là avec l'idée « moi, je vais survivre ». Parce que, bien, c'est conseillé de mettre des xénomorphes, plusieurs xénomorphes dans ces scénarios-là. Et le deuxième type, c'est le campaign play. Où ce que là, en fait, c'est d'aller vivre dans l'univers de Alien pour une des diverses compagnies, qui est toujours stressant, mais c'est pas parce qu'il y a des xénomorphes que c'est stressant, mais c'est parce que tu es seul dans le vide intersidéral. Mm-hmm. Ça se peut qu'il y ait personne qui puisse venir t'aider. Ça se peut que tu croises des xénomorphes aussi, tu sais, pour rajouter des problèmes à tes problèmes.
Quand même.
Il y a des archétypes de types de personnages comme le Corpo, le Space Marine.
Exactement. Ça, en fait, ce sont les classes, les carrières que tu vas pouvoir aller chercher qui va pouvoir te permettre de faire comme... Bon, ben je suis un roughneck, donc je suis le hillbilly du groupe qui va faire des trucs de hillbilly dans le... Ça va être lui qui va partir avec le lance-flamme seul dans un corridor, là, généralement, là.
Côté personnage, est-ce qu'on a beaucoup... Tu sais, tu as mentionné que les films... Peu de chances de survie, cinematic play, c'est stressant, il y a peu de ressources. Est-ce qu'on s'attend à ce que tous les personnages d'une aventure survivent?
Tu parles de la campagne?
Campagne ouais. Ou one-shot?
En fait, c'est dans la campagne, tu t'attends à ce que quelqu'un puisse survivre une session, mais éventuellement, ça se peut qu'il meure.
Okay.
Alors que dans le cinématique, t'es chanceux si
t'espères
tu survives.
T'espères qu'une personne...
Ça se peut que toi, tes joueurs autour de la table soient morts d'ici la fin de du cinematic play.
OK.
Ça représente bien les films, en fait. Dans les films, il y a Ripley qui sort, puis des fois les enfants. D'ailleurs, les enfants, c'est une classe de personnages que vous pouvez jouer. Donc, généralement, ils ont des plot armor, les enfants, parce que tu veux pas, même en tant que DM, te dire « Ouais, je tuerais pas un enfant non plus, là. » Mais
quoi que si tu veux donner de l'horreur, mais oui, effectivement, ça fonctionne. Il y a un tabou de société de faire du mal aux enfants.
Donc, mettons que niveau session zéro et traumatisme, cette game-là va peut-être devoir être écartée complètement selon certains joueurs.
Ouais, c'est ça. Donc,
ouais, pas un système de jeu pour tout le monde. Cœur sensible, s'abstenir.
Oui, parce que c'est très. Il y a beaucoup. Ils disent justement dans la session DM l'horreur, c'est là. Vos descriptions, quand tu trouves quelqu'un qui a été ouvert par un xénomorphe qui est sorti de par en dedans, décris-le bien. Faut que ce soit horrifique aussi dans la tête des joueurs. Donc, c'est sûr que oui, d'avoir un petit peu de sadisme et d'être capable, aussi en tant que DM, d'être capable de les décrire, ces scènes-là. Parce que bien...
Je pense que ça prend un détachement aussi, là.
Oui.
Détache, parce que souvent dans l'horreur, c'est que, à un moment donné, ça vient tellement extrême que ça en revient ridicule. Fait qu'on fait comme le tour, puis c'est comme... C'est pas tout le monde là, qui sont capables d'apprendre ça au deuxième degré. Beaucoup de monde, moi, quand j'étais tout petit, je prenais ça au premier degré, puis j'étais complètement traumatisé d'avoir vu Freddy Krueger.
Ah ouais, j'ai essayé de voir Alien la première fois. J'avais quelque chose comme 8 ans. J'ai été traumatisé. Là. J'étais pas capable de le regarder. Là. C'est genre, j'ai arrêté le film au bout de 10 minutes. Là. Puis c'est pas dans les 10 premières minutes que c'est le plus effrayant. Là.
Non, effectivement, ça vient ref...
Donc, le premier Alien est le seul que je n'ai jamais terminé à cause des traumatismes vécus à 8 ans. Toutes les autres, je les ai vus.
Disney Plus, tu peux retourner le voir.
Ouais, je pourrais réessayer de faire écouter ça le jour, les rideaux allumés, la lumière allumée, tu sais, comme me préparer, là. J'aime pas tant les jumpscares.
Puis pas te promener dans une chaufferie après.
non, éviter la chaufferie après. Donc, personnellement, je préfère ce système-là pour les cinematic play. Donc, pour des one-shot organisés une fois de temps en temps, pour garder l'intensité. La campagne est moins
moins pour la campagne, disons, dans ce système-là. C'est réellement plus pour le Cinematic Play que je l'apprécie.
Mais pour une campagne, ça ressemble vraiment à un jeu de survie dans l'espace.
Exactement.
Ça pourrait ressembler à un jeu de Star Wars ou quelque chose comme ça. C'est juste que la technologie est moins avancée, il n'y a pas de race funky, puis... Il n'y a personne qui va vous beam out quand vous êtes dans le trou.
Non, c'est ça. Vous êtes seul. Vous êtes seul. Puis si vous envoyez un message, ben ça va faire comme dans un des films où vous allez arriver sur un vaisseau fantôme avec des xénomorphes qui se promènent dedans. Oups. Donc, ça. Cinematic Play, vraiment intéressant. Campaign m'attire un peu moins, personnellement. Si ça vous attire, les jeux de survie dans l'espace où les ressources sont importantes à prendre en considération, allez-y, ce jeu va être fait pour vous.
J'imagine que les humains sont pas mal plus squishy que les xénomorphes aussi.
Oui, oui, je regarde au niveau des points de vie pour les humains entre 2 et 4. Les xénomorphes entre 5 et 10.
OK.
Donc, les points de vie sont pas... Bon, ouais, mais les xénomorphes ont aussi une armure qui diminue les dégâts reçus. Cool. Naturellement, tu sais, ils ont une carapace de chitine.
Ils saignent de l'acide aussi.
Ouais, puis ils saignent de l'acide.
C'est de là, vraiment ouais. Je parlais de...
Un bon monstre à affronter, là.
Peut-être ouais, joueur un peu...
Il faut que les joueurs soient prêts à ce que ce soit rough, ce soit
mettons
compliqué.
Mettons que se pratiquer en jouant à Call of Cthulhu, ça semble adéquat.
Oui, oui. C'est une petite pratique là pour aller dans l'univers des Aliens.
Effectivement, ça en est un autre, ça, où le taux de survie, c'est pas une mécanique très, très considérée dans le jeu. Hey, merci Nathan de ta présentation.
Ça fait plaisir, ça me fait plaisir de te présenter. Je m'étais préparé pour un one-shot hier, puis je ne l'ai pas fait, fait que j'ai repris j'ai appris hier pour aujourd'hui.
Parce qu'en plus de ta game qui a été cancellée, ton premier one-shot a été cancellé.
Exactement, tu sais, c'est comme ça allait bien hier.
Ben écoute, être adaptable, c'est une des habiletés qui est fondamentale dans nos loisirs. Là.
Ouais. Fait qu'on a imprimé les feuilles qu'on avait besoin pour faire du Blades in the Dark, puis et voilà, ça a tourné la soirée dans une soirée Blades in the Dark.
On a quelques petites annonces à faire avant de vous quitter. Ce soir, à 17h, on a un conseiller d'administration publique au E10001. Si ça vous tente de vous impliquer dans le CJRSS, c'est un bon moment de voir comment ça se passe en coulisses. On a après ça notre soirée board game. Mm-hmm. On a un party...
En exclusivité à la radio, l'annonce du prochain party board game. L'annonce aussi, elle va sortir demain. Comme quoi, le 7 avril, dimanche 7 avril prochain, donc fin de semaine après Pâques.
Ce n'est pas Pâques.
Ce n'est pas Pâques. Donc, ce n'est pas en fin de semaine. Fin de semaine prochaine. Vous allez avoir l'opportunité dimanche toute la journée de venir jouer à des jeux de société.
Je vais peut-être faire mon one-shot d'Alien à ce moment-là. Donc, si le jeu que je vous ai présenté aujourd'hui vous tente,
ben oui,
je vais le présenter.
Ton one-shot est fait.
Exactement.
Bonne idée. Le 13 avril, c'est Cap UDS. Si vous avez une demande d'admission acceptée à l'université, vous êtes invité à venir visiter.
Ou si vous avez des amis ou parents qui sont invités.
Ouais, ben vous, c'est sur invitation, donc vous pouvez faire partie d'un groupe, d'une personne invitée. Le CGRSS va tenir son kiosque, comme à chaque année. Si vous venez juste de nous découvrir, ben venez nous voir, ça va vous faire plaisir de vous montrer notre belle Ludo puis tout ça. Là.
Cette année, c'est Hugo et moi qui vont être présents au kiosque.
Fait que c'est chaud. Puis sinon, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui.
En effet.
On va vous souhaiter une super bonne semaine. La session achève.
Ouais.
Fait que...
Profitez-en, joyeuse Pâques. Reposez-vous bien.
Oui. Puis on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.